Le groupe d'infectiologie dermatologique et infections sexuellement transmissibles, surnommé le GRÉDiste, a le plaisir de vous présenter ses dernières actualités bibliographiques en maladies infectieuses. Elles ont été rédigées par les docteurs Jonathan Criguier, Agathe Nouchi, Romain Blaiseau, Clélia Vanek, Charles Cassius, Florence Poiseau et Antoine Bertolotti.
Émergence d'un nouveau génotype de Trichophyton integrophytes résistant aux antifongiques. C'est un résumé de deux articles paru dans Emerging Infectious Disease. Depuis quelques années, des cas de dermatophytose étendue résistante à la terbinafine sont décrits, essentiellement en Asie et plus récemment en Europe. Les caractéristiques mycologiques et moléculaires de ces dermatophytes ont amené à la création d'une nouvelle espèce, le Trichophyton indotinae. Cette espèce est endémique en Iran et dans le sous-continent indien. Elle est actuellement en dissémination mondiale depuis l'Asie via les flux migratoires. Deux équipes françaises décrivent ces infections chez des patients revenant tous du sous-continent indien. Jabet et Hall ont décrit en France 10 patients atteints de dermatophytose cutanée à Trichophyton indotinae. Sur ces 10 patients, 8 avaient été traités par terbinafine orale et la moitié n'a pas répondu ou a connu une rechute après cette cure de terbinafine. Le gène codant pour la squalène époxydase, la cible de la terbinafine, des Trichophyton indotinae de ses non-répondeurs, a été séquencé et des mutations par substitution ont été mises en évidence, semblant conférer la résistance à la terbinafine. Delière et al. Ont décrit 7 cas de dermatophytose cutanée profuse résistante à la terbinafine. Sur 2282 dermatophytoses vues en consultation en 2018-2019 à l'hôpital Saint-Louis à Paris, 350, donc 15%, étaient dues à Trichophyton integrophytes. Parmi elles, 7, 2%, étaient résistantes à la terbinafine. À nouveau, des mutations dans le gène de codant pour la squalène époxydase étaient retrouvées, et le séquençage permettait d'identifier Trichophyton indotinae. Les patients étaient traités par itraconazole, mais un échec clinique et microbiologique était constaté chez 4 patients sur 7. La mise en évidence de cette espèce en France est d'autant plus inquiétante qu'elle a été retrouvée en Allemagne chez un couple qui n'avait pas voyagé en pays d'endémie, ce qui alarme sur le risque de diffusion en Europe. De plus, si la transmission interhumaine du Trichophyton indotinae apparaît être largement majoritaire, sa détection chez des animaux accrédite l'hypothèse d'un réservoir animalier, dont une transmission zoonotique n'est pas à exclure. Les dermatologues et mycologues ne doivent donc pas méconnaître l'apparition en France de ces nouveaux dermatophytes résistants à la terbinafine. Il est fortement préconisé de réaliser un prélèvement mycologique avant tout traitement de dermatophytie, afin de les identifier pour en ralentir la progression en Europe.
La résistance à la méticilline a précédé l'arrivée des antibiotiques. Cet article a été publié dans Nature par Larsen et al. Le staphylocoque résistant à la méticilline, SARM, est un enjeu de santé publique, responsable de 170 000 infections invasives chaque année en Europe. Il a été identifié en 1960, après l'introduction de la méticilline, et représente le fer de lance de la lutte contre les infections aux germes dits multirésistants. La résistance aux bêta-lactamines est médiée par les gènes MECA et MECC, qui codent pour des protéines de transport PBP2A et PBP2C. Larsen et al. Ont étudié les différents clones du gène MECC au sein des SARM, soit les SARM-MECC, de hérissons en Europe et Nouvelle-Zélande. La prévalence des SARM-MECC était importante en Angleterre, République tchèque et Danemark, 50% des prélèvements, et nulle en France, Grèce, Italie, Roumanie et Espagne. Les auteurs identifiaient chez les hérissons la présence d'un dermatophyte, le Trichophyton erinacei, naturellement producteur de deux bêta-lactamines, une pénicilline G et un acide 6-pénicillanique. La mise en culture du SARM en présence du Trichophyton a montré que la présence d'un gène MECC muté diminuait la sensibilité du SARM aux antibiotiques produits par le Trichophyton. L'étude phylogénétique des SARM-MECC a permis d'estimer la présence d'un clone de SARM-MECC, le CC1943, dès le début du XIXe siècle, soit bien avant l'utilisation des bêta-lactamines. L'utilisation des antibiotiques a ensuite contribué à l'émergence de variants résistants à partir des mutants existants, avec des mutations différentes. Enfin, les auteurs démontrent que la dissémination de ces sarmexés reste localisée chez les hérissons et dans les quelques cas humains rapportés. Cet impressionnant travail met en lumière l'importance d'avoir un point de vue global, dit « One Health », dans la lutte contre l'antibiorésistance, prenant ainsi en compte les écosystèmes animaux, naturels et humains. Éruption de Pleva-like associée à une infection à SARS-CoV-2. Cet article a été publié dans Pediatric Dermatology par Gianotti et al. De nombreuses manifestations cutanées satellites du SARS-CoV-2 ont été décrites. Dans cette étude, Gianotti et al. Rapportaient 10 cas d'éruption papulopurpurique évoquant un pityriasis lichénoïde varioliforme aiguë, dit Pleva, apparu entre mai et décembre 2020. L'âge médian était de 10,2 ans. La présentation clinique comportait des papules purpuriques de 2 à 6 mm, évoluant par poussée de lésions nécrotiques et croûteuses, mimant ainsi un pleva. Ces lésions touchaient majoritairement le tronc. Les lésions cutanées régressaient spontanément en 8,8 semaines en moyenne. Des signes tels que de la fièvre, une asthénie, des arthralgies, des céphalées ou de la toux étaient retrouvés chez 6 patients. 3 PCR SARS-CoV-2 nasopharyngés étaient positifs parmi les 8 réalisés. L'ensemble des autres explorations biologiques étaient normales ou négatives. L'histologie montrait un infiltrat lymphocytaire accompagné dans 5 cas d'une dermatose de l'interface, de nécrose kératinocytaire avec un infiltrat marqué autour des annexes écrines. L'immunomarquage anti-SARS-CoV-2 nucléocapside montrait un marquage de la glande écrine.
Recommandations européennes pour la prise en charge des infections à Mycoplasma genitalium. Le Mycoplasma genitalium est responsable de 10 à 36% des infections génitales masculines non associées au gonocoque et non associées au chlamydia. Il est également rapporté dans les cervicites et inflammations pelviennes chroniques. Janssen et collaborateurs rapportent ici les dernières recommandations européennes 2021 de prise en charge de cette infection. Quand rechercher le Mycoplasma genitalium ? Chez les hommes, il faut le rechercher en cas d'urétrite, en cas d'orchiépidémite si le patient a moins de 50 ans, mais également en cas d'anorectite dans le cas où le gonocoque et le chlamydia sont négatifs. Chez la femme, il faut le rechercher devant une cervicite, devant des métrorragies, devant une dysurie non expliquée et également devant une anorectite sans gonocoque ni chlamydia. Le dépistage des femmes enceintes avant un avortement mécanique est également préconisé. Il est recommandé de tester les partenaires des personnes dépistées Mycoplasma genitalium positif. Comment rechercher le Mycoplasma genitalium ? Il faut le rechercher à l'aide d'une PCR sur premier jet d'urine chez l'homme ou auto-écouvillon vaginal chez la femme. La PCR peut être également réalisée au niveau rectal si le patient présente des symptômes et que la recherche de chlamydia et de gonocoque est négative. Il n'y a pas de testing pharyngé préconisé pour le Mycoplasma genitalium. Tous les prélèvements positifs à Mycoplasma genitalium devraient être suivis d'une recherche de résistance aux macrolides. Comment traiter le Mycoplasma genitalium ? Pour les infections non compliquées à Mycoplasma genitalium sensible aux macrolides, c'est l'azithromycine 500 mg J1 puis 250 mg à J2, J3 et J4 qui est proposée. La josacine 500 mg 3 fois par jour pendant 10 jours peut également être proposée. En deuxième intention, si persistance, de la moxifloxacine 400 mg par jour pendant 7 jours peut être prescrite. En cas d'infection non compliquée à Mycoplasma genitalium mais cette fois-ci résistant aux macrolides, alors c'est la moxifloxacine 400 mg par jour pendant 7 jours qui sera prescrite. Si échec de la moxifloxacine, alors la pristinamycine 4 g par jour pendant 10 jours peut être proposée. Il est à noter que l'aminocycline ou encore la doxycycline 100 mg deux fois par jour pendant 14 jours peut être prescrite, mais un certain nombre de souches, 70% selon la littérature, peut être naturellement résistante à cet antibiotique. Pour les infections compliquées, alors c'est la moxifloxacine 400 mg par jour pendant 14 jours qui est proposée. Quelles sont les mesures associées à la prise en charge du Mycoplasma genitalium ? Les partenaires doivent être traités avec le même traitement que le cas index. Les autres IST doivent être dépistés. Les rapports sexuels doivent être protégés jusqu'au test de contrôle. Et ce test de contrôle de guérison doit être réalisé au minimum 3 semaines après le traitement. Voici quelques commentaires au sujet du Mycoplasma genitalium En parallèle de ces recommandations, certains auteurs rapportent des troubles de la fertilité en lien avec le mycoplasma genitalium. D'autres équipes proposent un traitement par azithromycine 1 g J1 puis 500 mg J2 et J3. La résistance à la moxifloxacine est rapportée jusqu'à 30% des souches, notamment en Asie du Sud-Est. Elle grimpe progressivement également en France. Le dépistage du mycoplasma genitalium chez des cas seulement symptomatique est étroitement lié à la crainte de l'utilisation trop large des fluoroquinolones en médecine ambulatoire et ainsi de voir l'émergence de bactéries multirésistantes. L'antibiorésistance semble, selon certaines équipes, différente selon le genre et le type de sexualité, questionnant ainsi entre autres sur le dépistage des femmes asymptomatiques en âge de procréer. La méthodologie employée pour la réalisation de ces recommandations ne sont pas explicitées, elles semblent s'apparenter davantage à un avis d'expert. Entre autres, on constate que certains des auteurs présentent des liens d'intérêt.
Efficacité et tolérance du vaccin quadrivalent contre l'HPV chez les hommes, données à long terme. Cet article a été publié dans le Lancet Infectious Disease par Goldstone et al. L'efficacité du vaccin quadrivalent contre l'HPV chez les jeunes garçons a bien été démontrée pour la prévention des infections aux HPV oncogènes 6, 11, 16 et 18. Goldstone et al. Rapportait ici l'efficacité à plus de 10 ans de l'essai randomisé multicentrique évaluant l'efficacité du vaccin quadrivalent versus placebo chez des hommes hétérosexuels entre 16 et 23 ans et chez des homosexuels masculins, HSH, entre 16 et 26 ans. Un examen clinique annuel était réalisé, une cytologie anale pour les HSH, éventuellement complétée par une biopsie des zones suspectes avec génotypage HPV. Les hommes ayant été dans le groupe placebo initial ont eu accès à la vaccination à la fin de la période d'étude, groupe catch-up. Sur les 4065 participants à l'étude initiale, 1373 ont réalisé l'ensemble du suivi au long cours, 709 du groupe vacciné et 664 du groupe catch-up. La durée médiane de suivi dans le groupe vacciné était de 10 ans après la première dose et de 5,2 ans dans le groupe catch-up. L'incidence des condylomes ou autres lésions génitales HPV induites était de 0 dans le groupe vacciné au cours du suivi au long cours versus 137 et 140 cas pour 10 000 personnes par an dans le groupe placebo initial. Chez les HSH, l'incidence des néoplasies anales intraépithéliales était de 20 versus 906 pour 10 000 habitants par an. Dans le groupe catch-up, il n'y a pas de nouvelles lésions génitales HPV induites et une incidence de néoplasie intraépithéliale plus faible, 101 cas pour 10 000 personnes par an versus 886 lors de la période initiale de l'étude, avant la vaccination. Au cours du suivi, aucun cas de néoplasie anale de haut grade intraépithéliale n'a été rapporté dans le groupe vacciné et 5 dans le groupe catch-up. Aucun effet indésirable sévère n'a été rapporté en lien avec le vaccin. Cette extension des données confirme l'efficacité du vaccin HPV chez les jeunes garçons. Elle plaide aussi en faveur d'une vaccination chez les hommes ayant déjà rencontré l'HPV, au vu des données dans le groupe catch-up.
Recherche de toxines de diphtérie, y penser même en absence de voyage. Selon les recommandations OMS, la présence de toxines en cas d'isolation de corynébactéries ne doit être recherchée qu'en cas de voyage récent en zone peu vaccinée. Dans certains pays où Corynebacterium diphtheriae est de plus en plus fréquemment isolé sur des prélèvements cutanés ou pulmonaires, certains cas toxinogènes pourraient passer inaperçus. Marshall et collaborateurs ont mené une étude rétrospective de toutes les souches de Corynebacterium diphtheriae isolées entre 2010 et 2019 au Canada. Une recherche de toxines était systématiquement conduite en cas de prélèvement positif et une enquête autour du cas menée en cas de présence de toxines. Au total, 145 échantillons revenaient positifs à Corynebacterium diphtheriae, dont 82,4% d'échantillons cutanés. Parmi ces souches, 4,9 étaient toxinogènes, soit 7 cas. Aucun cas de diphtérie respiratoire n'était rapporté, mais 3 cas de diphtérie cutanée toxinogène étaient détectés entre 2017 et 2019. Les enquêtes épidémiologiques n'étaient réalisées que depuis 2017. Dans les 3 cas, le statut vaccinal était à jour et aucun voyage n'était rapporté dans les 6 mois précédents. Il s'agissait à chaque fois d'une plaie surinfectée, avec dans un cas une co-infection par Staphylococcus aureus et Streptococcus pyogenes. L'enquête autour des 3 cas retrouvait une colonisation asymptomatique dans les contacts de 2 d'entre eux, pour la plupart respiratoires. Cette étude illustre un risque faible, mais peut-être sous-estimé, des formes cutanées toxinogènes de diphtérie en dehors de tout voyage en zone d'endémie. Auparavant, le dernier cas autochtone en Amérique du Nord remontait à 1972. La découverte d'un cas de diphtérie cutanée justifie un envoi de la souche pour recherche de toxines en centre de référence, une sérothérapie en cas de toxine positive et un dépistage des cas contacts. Attention toutefois, dans cet article, les auteurs considèrent comme diphtérie cutanée certaines atteintes polymicrobiennes. Il s'agit d'une confusion fréquente dans la littérature. Une diphtérie cutanée au sens dermatologique du terme est une atteinte monomicrobienne découlant d'un syndrome toxinique sans la présence d'autres germes pathogènes comme Staphylococcus aureus et classiquement, mais pas toujours, présentant une pseudomembrane grisâtre sur l'ulcère.
Francisella salimarina, un nouvel agent responsable de tularémie ulcéroglandulaire. C'est un cas clinique paru dans Emerging Infectious Disease. Francisella tularensis est l'agent bien connu de la tularémie, notamment responsable chez l'humain d'infections cutanées associant ulcération et adénopathie satellite. Les autres espèces de Francisella ne sont classiquement pas pathogènes pour l'homme. Dans ce cas clinique, Enbic et al. Rapportaient une première infection humaine à Francisella salimarina. Il s'agissait d'un homme de 76 ans ayant reçu en 2017 un diagnostic de leucémie myélomonocytaire aiguë. Après une première cure de chimiothérapie par azacitidine et en contexte de prophylaxie antibiotique par cotrimoxazole sur une aplasie aiguë fébrile, le patient développait des lésions ulcéro-croûteuses de deux doigts de la main gauche associées à une adénopathie axillaire homolatérale. Les hémocultures aérobies retrouvaient un coxobacille gram-négatif non identifiable en spectrométrie. La PCR-16S retrouvait une Francisella. Le traitement était modifié pour de la doxycycline de 100 mg par jour puis du cotrimoxazole permettant une apyrexie. La souche de Francisella était adressée au Centre national de référence. Après culture en gélose chocolat et PCR, un séquençage du génome complet identifiait Francisella salimarina. L'antibiogramme montrait une sensibilité à la doxycycline mais une résistance au cotrimoxazole. Cette espèce est connue pour causer des infections systémiques chez les poissons et a été détectée dans le lot salé ou saumâtre en Chine et aux États-Unis. Les auteurs ne rapportent malheureusement pas de mode de contamination pour ce patient qui ne présentait pas de lien évident avec des poissons ou l'eau salée. L'identification de souches de Francisella et la réalisation d'antibiogrammes est important dans le traitement de ces formes particulières de tularémie, notamment chez les immunodéprimés.
Les auteurs ne déclarent pas de lien d'intérêt. Ils remercient le bureau du grédiste, le docteur Pascal Dajudis et le professeur Olivier Chaussido. La version longue de ces actualités bibliographiques est également disponible sur le mini-site du grédiste. Au plaisir de vous y retrouver!